RFI.
Radio Foot International, Annie Gasquet.
Rossia Dobri Vietcher, bonsoir à tous et merci de nous suivre, de nous écouter sur RFI, dans Radio Foot International et aussi de nous regarder sur le Facebook Live pour évoquer ce soir ce France-Argentine et ce Danemark-Croatie qui seront donc les affiches des huitièmes de finale. Finalement, les Argentins ont arraché leur qualification au terme d'un match angoissant pour les supporters de Messi et ses camarades, mais en éliminant des Super Eagles crucifiés à 5 minutes de la fin de la rencontre. Cruel pour les Nigérians alors que le stade de Saint-Pétersbourg s'enflammait avec les chants de milliers d'Inchas venus d'Argentine pour pousser les leurs. Messi est-il de retour ? Il a inscrit un but magnifique. Les Croates, premiers du groupe, confortés par leur victoire 2-1 sur les Islandais, un match extrêmement engagé où les Vikings se sont rendus, les armes à la main, le clapping à la main. Messi, Griezmann, ils seront donc face à face samedi à 16h à Kazan, où la France avait déjà disputé un match contre l'Australie. Les Bleus premiers de leur groupe C au terme d'un match assommant face au Danemark. Mais que valent ces joueurs de l'équipe de France qui ne nous ont pas encore montré grand-chose ? On s'interroge en pensant à Messi. Et puis les champions du monde au Brésil en 2014, seront-ils en huitième de finale ou pas ? Demain, la Mannschaft joue face à la Corée du Sud, alors que les Mexicains joueront eux face aux Suédois. Et dans ce groupe, sauf la Corée, tout le monde peut encore se qualifier pour le huitième de finale. Naïmonial, bonsoir.
Salut Annie, salut à tous.
Merci d'être avec nous en cette heure si tardive, mais c'est vrai qu'il y a un peu d'adrénaline qui aide à tenir aussi tardivement. Mais... Ah oui, vous avez dit bonjour à nos amis qui nous regarde.
Bien sûr.
Freddy Koula, bonjour.
Hello Annie, salut.
C'est là-bas qui nous regarde.
Voilà, l'Afrique.
Et puis Marc Libra, bonjour Marc.
Bonsoir à tous, bonsoir. On est partout.
Vous aussi, vous êtes d'attaque.
Ouais, on est prêts.
Radio Foot, c'est parti sur les ondes et sur Facebook Live.
Direction la Russie, pour vivre la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018.
Messi qui a délié en Argentine après même pas 20 minutes de jeu ici à Saint-Pétersbourg.
Et voilà, je vous avais dit, il y a eu un jaillissement de Rocco qui a pris toute la défense à contre-pied.
Le corner tiré par Etebo, Trostekong Balogun qui s'effondre dans la surface, le pénalty sifflé et le carton jaune sorti à l'encontre de Ranier Mascherano. Le contre-pied parfait et l'égalisation de Victor Moses. Il remet le Nigeria dans le droit chemin. Le ballon qui revient sur ce même Mercado. Ambiom en bonne position pour centrer la reprise. Aguero le but. Le but argentin. C'est Roro Montecosa en poste. Le défenseur argentin qui vient placer ça en plat du pied. Et ça fait bouche dans la cage nigériane. Et l'Argentine reprend cette qualification qui lui échappait.
Roro gagne la Copa del Mundo. Et lo que imagino.
Les supporters argentins qui chantent déjà « Nous allons gagner la Coupe du Monde ». C'est vrai que l'Argentine et les Argentins, qu'ils soient du côté de la Russie ou dans leur pays à Buenos Aires, sont soulagés. Leur équipe continue l'aventure en Russie et jouera donc en huitième de finale. Huitième de finale contre la France, les Bleus. Les Argentins ont inscrit 2 buts. Lionel Messi, vous l'avez entendu, et puis Marcos Rojo, le défenseur, qui ont donc crucifié finalement ces Nigérians. Ils étaient vaillants, on va dire, ces Nigériens, on va y revenir. C'est Victor Moses qui avait égalisé en fait en milieu de match sur pénalty. On va tout de suite rejoindre Alejandro Valente. Alejandro Valente, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Alors
bonsoir.
Alejandro Valente, on vous entend dire au premier but, je vous l'avais dit à Hugo Moissonnier, mais c'est vrai que on n'était pas sûr quand même que l'Albi Céleste revienne de si loin. Elle était en plus poussée par pratiquement tout un stade, on le voyait à l'écran.
Oui, je pense qu'on a cru revoir un peu l'équipe d'Argentine qui qui avait si bien marché au Brésil. Déjà, il y avait beaucoup de joueurs qui avaient disputé la finale contre l'Allemagne il y a 4 ans, qui étaient de retour dans cette équipe. Mais il y avait aussi cette ferveur populaire. La Russie est beaucoup plus loin de l'Argentine que le Brésil. Mais tout de même, il y a des milliers de supporters partout qui poussent l'équipe. Et donc, on a retrouvé un peu l'Argentine de 2014. Alors, est-ce qu'elle ira aussi loin? C'est toute la question qu'on se pose ici.
Oui, mais déjà, effectivement, il fallait gagner ce match pour réussir à se hisser en 8e de finale. Freddy Koula, cette Argentine, comment l'avez-vous perçue, on va dire, ce soir?
Une Argentine ressuscitée. Je l'ai dit d'ailleurs avant le match sur Twitter. D'ailleurs, j'ai dit que le Nigeria précédemment avait réussi à ressusciter l'Argentine dans un premier temps, et Messi était censé être comme le Messie, comme souvenez-vous l'histoire chrétienne de Jésus qui ressuscite le troisième jour, et le troisième jour c'est censé être le troisième match, et ce troisième match là a ressuscité finalement le Christ, Jésus qui est Messie entre guillemets, qui lui le jour de Pâques, c'est-à-dire la Coupe du Monde, réussit à s'en sortir grâce à son génie premièrement, et ensuite aussi grâce à un gros coup du sort, parce que figurez-vous et dites-le vous, beaucoup d'Africains sont en colère, pas que, il y a pas mal de gens qui sont en colère parce que justement on a l'impression qu'il y a eu une totale injustice autour de ce match, on va y revenir.
Marc Libra, cette Argentine ressuscitée?
Messi a été bon, mais après j'attends quand même autre chose de l'Argentine. Ouais. Je suis foncièrement déçu de la seconde période, où c'est vrai Messi marque un but d'anthologie sur la première, mais après il y a des choix très bizarres, que ce soit Pérez qui démarre, que ce soit Di Maria qui a été très mauvais, les choix de Sampaoli qui ne fait pas jouer Dybala quoi qu'il arrive, tout ça, il fait rentrer Pavone, Meza à la place de Dybala qui doit rentrer, il faut nous expliquer ce qui se passe avec lui. Après, j'attends autre chose. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'ambiance qu'il y avait peut vous permettre de vous transcender. On a vu Mascherano, qui pour moi n'a pas été forcément très très bon, finir avec
Il a même été très très mauvais,
Mascherano. Mais c'est le coach adjoint de l'équipe.
J'ai voulu être gentil, c'est pour ça, messieurs, ne soyez pas très durs. Ouais.
Mais, alors certes, il s'est sacrifié, il avait une grande marque de sang pendant la fin du match, mais c'est lui qui provoque le pénalty.
Je vous dis, j'attends autre chose de l'Argentine quand même.
Naïm Moniol, sur cette Argentine, qui se qualifie.
Ouais, ben c'est faux, c'est vraiment tout ce qu'il faut retenir. Moi, je trouve, alors évidemment, il y avait un bien meilleur état d'esprit que contre la Croatie, où on les a vus perdus, complètement inertes et sans solution. Après, dans le jeu, c'est quand même très pauvre. Alors, ce qui peut expliquer aussi la deuxième mi-temps, c'est le fait qu'ils soient repassés un temps en 4-4-2 et que ça ne correspond absolument pas aux joueurs qui y est en place. Mais globalement, quand vous avez sur le terrain Messi, Higuain, Di Maria, Banega, et que vous jouez comme l'Écosse des années 70, c'est-à-dire balancer des ballons sur Messi en espérant qu'il fasse un truc, c'est complètement incohérent. Je n'ai pas trouvé qu'il méritait vraiment de sortir de la poule par rapport à tout ce qu'on a pu voir sur d'autres matchs. Ils le font très bien pour Messi. Une Coupe du Monde avec Messi, c'est mieux. Mais on attend évidemment plus de cette équipe qui est très décevante.
Alejandro Valente, on se demandait si finalement l'Argentine serait à la hauteur de son rang de vice-championne du monde. Mais surtout, vous l'aviez dit, Sampaoli disait ce soir elle va rentrer dans la Coupe du Monde. C'est un peu tard, mais pensez-vous qu'elle soit vraiment rentrée dans sa compétition?
Je pense que oui, en fait, c'est vrai que cette équipe continue de susciter de nombreuses interrogations. Tout le monde a remarqué que quand même les niveaux de cet ensemble de joueurs est très irrégulier et que l'Argentine a beaucoup de mal à emballer les matchs et même à poser les pieds sur le ballon quand ça chauffe un petit peu. Cela dit, il était très important de gagner ces matchs, non seulement pour rester en course, mais pour retrouver un état d'esprit un peu plus conquérant. Et pour beaucoup d'équipes, souvent la Coupe du Monde commence vraiment à partir des huitièmes de finale. On verra quelle équipe d'Argentine va pouvoir défier la France, mais en tout cas, il n'y a pas la même pression, parce que bon, jouer contre la France, ce n'est pas la même chose que de sortir au premier tour. Donc je pense que les joueurs se sont quand même libérés d'un poids. Après, il y a beaucoup de choses à régler encore.
Oui, sans doute. Freddy Koula, vous me disiez que vous aviez observé la préparation hier, hein, l'échauffement de cette équipe, et que vous aviez presque des doutes sur qui a dressé finalement l'équipe du jour.
Mais Alejandro va peut-être nous témoigner justement. Il y a l'histoire de ce dernier match-là. Ça va peut-être faire l'objet de tout un film, peut-être en Argentine, parce que la construction même de cette victoire-là, qui peut-être semble ne pas être mérité, mais c'est toute une histoire derrière, avec la reconstruction, certainement les discussions qu'il y a eu autour de cet effectif, de cette équipe, la reconstruction de l'effectif et même la composition de l'équipe. Hier, à l'entraînement avant le match, justement, on a vu une scène assez extraordinaire. Mascherano, justement, parce que l'entraînement était ouvert 15 minutes avant le début à la presse, et Mascherano était en train de discuter avec Sampaoli. On avait l'impression que c'est Mascherano qui dictait quelques règles, quelques consignes sur certainement la composition et le déroulement de l'entraînement.
Qui d'autre que c'était, Messi peut faire l'équipe en Argentine.
C'était phénoménal. Non, Mascherano en lui-même, Mascherano, selon les médias argentins, Mascherano, Messi ont créé ce qu'ils ont appelé le Conseil des Sages. Il y a eu une discussion avec le président de la Fédération Argentine, avec Messi et Sampaoli. En venant en conférence de presse, Sampaoli d'ailleurs a dit qu'il fallait se souder et qu'il reconnaissait quelques torts qu'on lui a
fait. Le problème de cette équipe d'Argentine, c'est qu'elle est en quasi-autogestion depuis 2 ans. Alors évidemment, elle est pas bonne depuis le début de la Coupe du Monde, mais elle est pas bonne depuis 2 ans. Regardez ses éliminatoires. Il y a eu 3 sélectionneurs, il y en a aucun qui a réussi à trouver l'animation offensive. Ils finissent avant-dernière défense de la Confédération. Ils sont dans un groupe, oui, il y a la Croatie, mais pour le reste, quand même abordable. Ils ont toutes les difficultés du monde à en sortir. Moi, je veux bien qu'il y ait Messi, je veux bien qu'il soit exceptionnel, je veux bien qu'ils aient des vertus, que les Sud-Américains soient bagarreurs, tout ce qu'on veut. Mais enfin, c'est quand même, puis même au sein de la fédération, Alejandro pourrait peut-être en parler mieux que moi, vous avez Carlos Bianchi cet après-midi, mais même au sein de la fédération, c'est quand même très compliqué. En Argentine, on sait pas bien qui dirige, et au niveau des dirigeants, enfin,
c'est sans doute pour ça que ça se voit sur la pelouse, malheureusement.
C'est quand même incohérent et n'importe quoi depuis 2 ans au regard du talent qu'il y a dans cette équipe.
Est-ce que le problème aussi, c'est ce n'est pas qu'il manque cette âme sud-américaine dans cette équipe. J'ai l'impression que cette équipe, c'est beaucoup européanisée. On en a parlé justement. Mm-hmm. Elle est totalement différente de l'équipe du Mexique. Elle est différente de l'équipe de Colombie. Il manque cette fibre sud-américaine.
Il y a moins de talent aussi.
Le Brésil aussi est très européanisé.
Je trouve que
la Colombie est assez européanisée, beaucoup plus qu'on le pense. En tout cas, le 11 de départ. Il n'y a pas ces problèmes-là.
Après, la Colombie, c'est un effectif qui est construit depuis 2013. Et je trouve qu'il y a une homogénéisation. En Argentine, c'est totalement différent.
Alejandro, c'est Messi et Mascherano qui auraient dressé l'équipe du jour.
Bah, disons qu'en tout cas, c'est ce qu'on a dit. Sampaoli l'a reconnu à demi-mot. Il a dit qu'il écoute toujours beaucoup les joueurs. Et les joueurs, effectivement, ont parlé avec lui. Ils lui ont transmis un message simple. On veut retrouver un système de jeu comme celui que nous avons utilisé ces dernières années, qui nous a plutôt réussi, puisque l'Argentine a disputé la finale de la dernière Coupe du Monde, elle a disputé la finale des 2 dernières Copa América. Donc on est revenu à ça. C'est un groupe qui est quand même très, très conservateur au fond, puisqu'on a 6 joueurs aujourd'hui sur le terrain qui ont disputé la finale de 2014. On pourrait ajouter Di Maria qui était blessé à l'époque, sinon il aurait joué lui aussi, donc ça aurait fait 7. Et 8 joueurs qui étaient titulaires lors de la finale de la Copa América en 2016. Donc tous ces jeunes joueurs que Sampaoli a mis en place ont pratiquement disparu. On pense que Romero aurait été le gardien s'il n'avait pas été blessé, donc Aramani était là un peu par défaut. Donc pratiquement on est revenu au vieux groupe, au grognard qui avait triomphé ces dernières années. On essaie d'oublier tout ce qui s'est passé après la Copa América où l'Argentine a perdu effectivement un peu le fil et le fil de son histoire et le fil de son jeu.
Alors parlons de l'ouverture du score. Marc Libra, ça vient des pieds de Lionel Messi. Décrivez-nous ce but parce que c'est un but magique.
Déjà l'ouverture est très impressionnante puisqu'elle est parfaite et c'est surtout que le défenseur pense que Messi va laisser tomber le ballon et c'est à ce moment-là que lui fait l'accélération et il lui met 2 mètres quoi. Il lui met presque 2 mètres sur l'accélération. C'est-à-dire que à ce moment-là, la plupart des joueurs de foot vont contrôler. Le ballon va aller à terre et ils accélèrent. Lui, à ce moment-là, le ballon ne va pas retomber et le défenseur se laisse piéger parce que non, le ballon va se poser. Il se pose pas. Et là, il y a la double accélération de Messi. Génial. Après, je pense que le gardien est un petit peu fautif parce qu'il plonge en retard pour moi même sur le deuxième but. Et à l'arrivée, ça fait toute la différence. Et là, on a vu
poteau, je pense.
On a vu tout le génie. Je crois que c'est Banega qui fait l'ouverture aussi. On a vu toute la classe et le génie de Messi sur ce genre de choses. C'est pas la frappe, c'est juste ce contrôle une fois et le ballon ne tombe pas à l'accélération. La plupart des joueurs auraient laissé tomber le ballon, lui il a récupéré. Après c'est dommage qu'on ne l'a pas vu forcément, on l'a vu sur ce coup d'éclat, mais après on l'a pas trop vu, donc c'est un petit peu dommage. Mais après, comme souvent, on lui donne le ballon et ouais. Vas-y Messi, débrouille-toi mon garçon et fais-nous la différence s'il te plaît. Ouais, en seconde période, c'était assez hallucinant.
Faire la différence en marquant, ce qui est quand même énorme parce qu'il y en a beaucoup qui reçoivent des bons ballons et lui, tout est magnifique.
On le voit pas forcément, c'est vrai qu'il y a ce but, mais après, il n'y a pas grand-chose.
Non, mais
il était dans un rôle différent dans ce match-là. si vous avez bien regardé les 10 premières minutes, Messi a essayé de faire ce qu'il a voulu faire depuis le début du mondial, essayer de faire la passe, de faire le jeu. À partir d'un certain moment, je pense qu'il a compris qu'il fallait qu'il prenne la profondeur. Et quand il a pris la profondeur, il a reçu cette balle magnifique de Banega, qui d'ailleurs, de toute façon, ce match-là est une histoire un peu bizarre. C'est la personne qui fait la passe, c'est Banega qui était sur le banc depuis le début du mondial. Messi qui marque, il a été énormément critiqué. Celui qui marque le deuxième but, c'est Roro. Il a été énormément critiqué. Roro a presque été insulté.
Roro, il revient dans l'équipe déjà.
Il a été presque insulté, vraiment insulté en Argentine. Il était sur le banc le deuxième match et c'est lui qui vient délivrer.
Ceci dit, ça sera à mettre au crédit de Sampaoli, c'est qu'il revient une défense à 4 en remettant Roro. Roro marque. Il titularise Banega. Banega fait une passe D.
Donc, à la rigueur, c'est lui qui remet Roro.
Ça lui donnera une crédibilité un petit peu.
Alejandro, on s'est amusé aujourd'hui à chercher dans les archives sonores de RFI et écoutons cette archive où vous évoquez la passion des Argentins pour le ballon rond.
Je pense que le footballeur argentin aime la balle plus que les autres, c'est-à-dire il n'aime pas la lâcher, il aime la caresser, la garder en général. L'Argentin a une relation extrêmement proche avec le ballon.
Sensuelle, physique.
Tout à fait, physique, oui, d'accord. C'est vrai.
Vous vous souvenez, Alejandro Valente ?
Je ne me souviens pas, mais je trouve que c'était des mots tout à fait appropriés pour ceux qui voilà. La relation de l'Argentin avec le football. Oui.
Exactement, et en pensant évidemment à Messi, c'était dans une émission en sol majeur avec Yasmine Chouaki sur RFI il y a à peu près une dizaine d'années, et on voulait vous faire ce clin d'œil sur... oui, Freddy Couleur.
Ouais, c'est génial, les Argentins aiment le ballon, mais les Argentins dans la globalité aiment le foot profondément. On a vu cette ambiance qu'il y a eu dans le stade, magnifique. J'en parlais justement, on parlait avec David Finzel, on disait l'Argentine doit rester dans le mondial indépendamment de l'amour qu'on a pour le Nigeria, parce qu'il y a justement cette ferveur autour du stade. C'était génialissime l'ambiance qu'il y avait dans ce stade là c'est un coup de chapeau aussi.
Alejandro, on va vous libérer, mais juste une question, dites-nous comment vous voyez ce France-Argentine que vous imaginiez peut-être en finale plutôt qu'en huitième de finale.
Bah écoutez, oui, c'est vrai que je l'avais prédit en finale. Finalement, on l'aura en huitième de finale. Donc pour moi, c'est une sorte de finale anticipée. Je pense que ça va être un match ouvert. À mon avis, la France a des atouts conséquents puisqu'il aura eu la possibilité de faire tourner son effectif aujourd'hui, alors que l'Argentine a dû batailler pendant 90 minutes pour venir à bout du Nigeria. Mais bon, ça reste un match qui sera très ouvert parce que la France... n'est pas une équipe qui va défendre avec 10 joueurs derrière, donc elle va pas retrouver, l'Argentine va pas retrouver la configuration qui lui pose souvent ce genre de soucis. Et voilà, je pense que c'est un match à l'issue incertaine et qui sera très ouvert et que je suivrai avec beaucoup d'intérêt comme tout le monde, parce que finalement, on a cette finale anticipée, on aura peut-être Brésil-Allemagne, qui sait, ce huitième de finale s'annonce assez fou.
Merci beaucoup Alejandro Valente d'avoir été en direct avec nous. On va continuer ici sans vous. Merci et bon travail à vous et à Hugo Moissonnier qui avait assisté à ce match. Justement, attachons-nous un petit peu à ce match, mais surtout à la prestation du Nigeria. Le Nigeria qui pouvait se contenter éventuellement d'un match nul. Le Nigeria qui arrive à revenir au score sur un penalty. Et puis, il y a ce but à la 86e minute de Rojo. Écoutons la réaction du capitaine malheureux John Obi-Mikel à la fin du match.
Ben, c'est comme ça. J'ai rien à dire. On a fait tout ce qu'on a pu. On a tout donné jusqu'au bout. On concède ces deux buts. Bon.
Oui. We did everything we could.
On a fait tout ce qu'on a pu.
I think my team, the guys,
bon, je crois que mon équipe, les gars, ont vraiment tout donné aujourd'hui. Je suis très fier d'eux. Everybody, on a tout donné aujourd'hui. Chacun a poussé. On savait que ça allait être difficile de jouer contre ces grands joueurs. Mais je pense qu'on a tenu notre rang. On a fait tout ce qui était possible de faire. C'est juste que, voilà, ça n'a pas marché.
Naïmoniol, ça n'a pas marché. Ces Nigérians se sont battus et jusqu'au bout et ça a failli passer.
Ça a failli passer parce qu'on a vu finalement que quand cette équipe met les bons joueurs à la bonne place, c'est une équipe qui a de la qualité. Alors on savait qu'ils avaient un gros impact physique et un gros mental, mais moi j'ai trouvé que même techniquement c'était assez juste. Ils arrivent toujours à 2 ou 3 dans les 20 derniers mètres adverses. Beaucoup de vitesse. Ils méritaient mieux sur ce match, maintenant sur la poule, comme le Maroc, ils sont éliminés sur la première rencontre.
ils font n'importe quoi contre la Croatie, ils déjouent, ils perdent. Avec les qualités qui étaient les leurs, ils peuvent prendre un point. Avec un point en plus, ils passent. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut, c'est féliciter d'une part Guernot Rohr pour le travail qu'il a fait. Gérer le Nigeria, c'est toujours très compliqué de gérer une nation africaine. Gérer le Nigeria, c'est peut-être encore plus compliqué. Donc, qu'ils se servent de ce travail-là de base pour l'avenir. On a vu des beaux joueurs, une belle génération. Mais j'ai adoré Musa, j'ai adoré Ndidi.
Moussa, je trouve que vous voulez dire Moussa. Sinon, oui,
Moussa,
je dis,
Moussa, excusez-moi. Voilà, je trouve qu'il y a plein de beaux joueurs dans cette équipe, plein de qualités footballistiques, de vitesse. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi sur le premier match, comme le Maroc.
Freddy,
les Nigériens, je pense que ça commence à faire beaucoup pour le Nigeria, avec des éliminations qui sont toujours un peu limites. En 94, ils étaient sortis un peu amèrement. En 2002, ils étaient sortis un peu amèrement. En 2014 aussi, face à la France, avec une injustice, un but qui aurait dû être accepté.
Freddy.
En 2014, je vais bien te le conseiller.
Je peux comprendre tes références
historiques. Amèrement aussi, parce qu'on a l'impression qu'il est, voilà.
Je peux comprendre tes références historiques et sur le fait que tu puisses trouver des points communs sur les éliminations, pas de problème. Maintenant, quand on parle du Nigeria et globalement des nations africaines qui changent de sélectionneur tous les 6 mois, quel héritage on laisse d'une Coupe du Monde sur l'autre?
Absolument rien. Nigeria, c'est complètement différent. Ils ont
quand
eu
on
des
parle
problèmes.
Des nations européennes ou des nations sud-américaines, même si t'as pas forcément le même sélectionneur sur deux Coupes du Monde, c'est des pays qui ont des traditions de jeu.
Les réalisations ne sont pas les mêmes. Les réalités ne sont pas les mêmes.
Non, mais t'as des filiations.
Commencer à comparer l'Europe et l'Afrique.
Mais exactement
ça
ce que je suis en train de te dire.
Il n'y a pas d'immigration politique ici. C'est pas pareil.
Tu as zéro héritage d'une Coupe du Monde ou d'une autre. Donc tu dis, et à chaque fois, ils sont éliminés de la même manière. Oui, mais à chaque fois, faut tout reconstruire au Nigeria.
Après, c'est mal.
C'est aussi ça. Déjà,
même je vais te dire sociologiquement et même du point de vue macro-sociologique, c'est problématique. Alors, et même c'est pas bien de comparer l'Afrique et l'Europe déjà premièrement parce que sociologiquement et même du point de vue politique, il y a toujours des problèmes.
Moi,
et le Nigeria est en
plein. Le
Nigeria, justement, ça peut être consécutif à tous les problèmes qu'ils ont eu. C'est une équipe en reconstruction. Quand Guernot Rohr a pris cette équipe-là, la fédération était suspendue. Quand Guernot Rohr a pris cette équipe-là, il y avait beaucoup de joueurs qui avaient
c'est
décidé de partir
en retraite.
Dire
que de dire à chaque fois on est éliminé de manière ric-rac. Oui, mais parce qu'à chaque fois, faut tout reconstruire. À un moment donné aussi, il faut assumer.
C'est vrai que Guernot Rohr avait recommencé son travail, mais c'est vrai aussi que alors que le Nigeria était absent ces derniers temps des CAN,
ils étaient bien revenus,
ils avaient réussi
fait un bon travail,
ils sont bien revenus.
Ce que je dis, c'est que dans le jeu, ils auraient pu faire mieux. À chaque fois, il y a quelque chose qui se passe à la dernière minute. Et là, ils auraient pu faire mieux, notamment sur les deux, l'Oburaté, sur De Igalo.
Et ils portaient beaucoup d'espoir, parce que c'est vrai que c'était une des équipes, justement, on sait qu'elle peut arriver en huitième de finale.
Sans vouloir.
Ouais. Marc Lebras.
Freddy parle de... C'est quoi qui te dérange par rapport à... C'est quoi qui est amer pour eux? Tu penses l'histoire du pénalty?
Non, pas nécessairement. L'histoire du pénalty, ça rend vénère surtout les supporters. Je pense que eux, ils sont passés à quelque chose de grand. Parce que dans le jeu, ils auraient pu faire mieux, notamment en concrétisant les actions qu'ils ont eues en deuxième mi-temps. Et c'est peut-être le problème. C'est que sur les trois matchs, ils ont joué que deux mi-temps. Le premier match,
Ils n'ont pas joué le premier match.
Le deuxième match, ils ont joué une mi-temps, ils ont marqué deux buts. Là, ils ont joué une mi-temps, la deuxième notamment, où ils avaient tout pour gagner en mettant notamment le deuxième but. Le pénalty, ça peut se discuter. Moi, je suis vénère, mais si j'en parle, ça va être un peu excessif. J'ai pas envie d'en parler parce que.
Il y a le poids de mesure
sur la vidéo arbitrale. Mais je trouve que voilà, par exemple hier le penalty de l'Iran sur à peu près quoi, c'était quoi 4-5-6 centimètres,
ils
ont sifflé le penalty, c'était à peu près la même chose.
Exactement.
Voilà, ils auraient dû siffler ce penalty là parce qu'on comprend plus, parce que si les cas sont similaires et qu'ensuite on peut pas siffler les cas qui sont similaires, il faut commencer à réinterroger cette vidéo arbitrale là qui pose problème depuis le début. On n'est pas sorti de
ça. Pour la vidéo, elle pose problème pour les gens qui ont vu que ça pose problème.
Oui, on en discute davantage
sur l'arbitrage en général.
Mais Marc, juste par rapport à la règle, c'est vrai que il y a une main, c'est vrai, il y a la tête, il y a une main, mais il y a l'avantage, c'est-à-dire que l'attaquant conserve l'avantage. C'est pour ça que l'arbitre, quand l'assistance, on a bien vu tous les arbitres n'arrivent pas à donner, ils lui disent va voir de toi-même s'il te plaît. Il va voir et là il voit effectivement la tête qui va sur la main, mais l'attaquant a l'avantage.
C'est ça.
C'est-à-dire que s'il marque le but, on fait quoi, Freddy, s'il te plaît, il faut rappeler une règle.
Une légende chez les journalistes qui dit on doit pas avoir les bras décollés du corps, sauf quand c'est on siffle quand c'est la main qui va vers le ballon et pas du ballon vers la main. Ouais, et la tête, elle envoie le ballon vers la main, il y a pas penalty.
Ouais.
Hier, c'est une erreur d'arbitrage. Voilà. Mais aujourd'hui, la faute de Mascherano, il y a eu penalty. Il y a eu la vidéo, il y a eu penalty. En faveur du Nigeria. Pourtant,
en face, c'est
l'Argentine, c'est Lionel Messi. Donc, comme quoi, on peut aussi attribuer la vidéo et des fautes.
J'ai pas parlé de rapport de force. J'ai dit juste qu'ils n'ont pas de chance.
Messi, parce que c'est toujours ce qu'on sous-entend.
Hier, c'était pareil.
C'est une erreur de
victimisation. Ce n'est pas de la victimisation.
On va pas faire de débat sur la vidéo en général. Parlons du Nigeria pour oui. terminer sur leur prestation, Marc, parce que c'est vrai que c'est une équipe qu'on a vu monter en puissance finalement dans la compétition.
Oui, sur deux matchs, il y en a trois.
Mais oui.
Une Coupe du Monde, alors les Français, quand
on
voit
Younon, il y a que trois matchs.
Ils ont joué 25 minutes sur le premier ou 30 minutes, un petit peu plus sur le second, et aujourd'hui ils n'ont pas joué. Mais à l'arrivée, ils s'en sortent bien. Donc c'est ça qui est dommage, parce qu'il y avait des joueurs d'expérience, il y a des jeunes joueurs qu'on risque de revoir. Mais c'est pareil pour Gandro, il faut qu'il soit laissé en place, il faut que le travail continue et que l'on avance et qu'il ne soit pas perturbé par plein d'éléments extérieurs.
Voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire sur le Nigeria, qui malheureusement est la troisième équipe africaine à quitter la compétition du côté de la Russie. Avant qu'on évoque cette affiche de France-Argentine de samedi, un petit clin d'œil quand même. L'autre qualifié de la soirée, c'est la Croatie. La Croatie, alors eux, ils ont encore gagné leur match, ils auront gagné les trois. Mmh. Ils ont battu l'Islande sur le score de 2-1, mais ça a été un match épique et un match très physique.
Très physique, et les Islandais, on va revenir sur des histoires de mérite et d'actions non concrétisées, mais c'est vrai que l'Islande a fait une partie incroyable en cassant ses principes de jeu, c'est-à-dire en ouvrant le jeu, en se créant des occasions, pas uniquement sur coup de pied arrêté.
Eux aussi, ils peuvent s'en vouloir, parce que les occasions,
ils en ont. Mais pour une première Coupe du Monde, pays de 300 000 habitants, qui se procure beaucoup plus d'occasions que l'équipe de France, qui a des attaquants à 100 millions. Donc il faut aussi se poser des bonnes questions.
Mais ça, c'est le débat d'après.
Ce que l'Islande a montré, c'est très joli. Et il faut quand même dire un truc, c'est que la Croatie, sur ses deux premiers matchs, a vraiment maîtrisé la chose, a dominé son sujet. Là, était en difficulté. Elle a réussi à s'en sortir. Un visage qu'on lui avait pas vu encore sur cette compétition, qui est tout à son honneur.
Mais elle s'en est sortie aussi parce que, au départ, elle avait aussi fait tourner dans son équipe. Et donc, c'était pas l'équipe qui avait remporté les deux premiers matchs, Marc.
Oui, mais à l'arrivée, on a vu que,
il y avait Modric, mais pas Rakitic, Mandzukic.
Mais Perisic est encore là, il est capable de faire la différence en fin de match. Cette équipe, elle a des cadres, elle a des patrons et ils sont en place. Mais on a assisté à un super match ou un football total engagé. Moi, je jonglais sur les deux matchs. Mais l'Islande, sur la première période, peut vraiment avoir des regrets, quoi. Mais vraiment avoir des regrets. Ouais. Et l'avantage pour la Croatie, c'est qu'ils ont pu faire souffler certains joueurs et ils seront frais pour leur huitième de finale.
Mm-hmm. Il y a une petite histoire, justement, sur ce match-là. Si vous vous souvenez bien, c'est l'Islande qui a envoyé la Croatie en barrage, justement, lors des éliminatoires de cette Coupe du Monde. Et je pense que la petite victoire, même s'ils étaient déjà qualifiés, va faire du baume au cœur aux Croates.
Ouais, c'était un petit air de revanche. En tout cas, on a envie de les remercier, ces Islandais qui, à chaque fois, finalement, donnent tout sur le terrain et offrent du spectacle, même si parfois...
Avec le clapping.
Et ben voilà, on leur dit ciao. Ils ont un tempo bien à eux, ils ont un tempo fabuleux et c'est vrai qu'on entend leur hou dans les stades et ça ferait presque peur. Ciao les Vikings et à la prochaine.
Sors nous la vodka, on va la gagner chez toi. Gérard de Pardieu, sors nous la vodka, on va la gagner chez toi.
Les supporters de l'équipe de France, alors ils chantaient en allant au stade, peut-être pas en sortant de la magnifique enceinte Loujniki, parce que les Bleus, les supporters des Bleus et les supporters aussi ou les spectateurs dans ce stade, eh bien ils les ont sifflés les deux équipes sur le terrain. Le match s'est terminé sur un score nul, 0-0, le score aussi insipide que finalement le match auquel on a assisté. Décevant pour tous, et ben oui, même pour Antoine Griezmann, même si évidemment le résultat est plus important.
C'est vrai que c'était pas très beau à voir de la tribune ou à la télé. Donc voilà, je suis désolé pour les gens qui attendent beaucoup de buts ou des beaux gestes. C'était pas le cas aujourd'hui. On a essayé de prendre l'avantage dans la première mi-temps. On n'a pas réussi. Après, dans la deuxième, eux, ça s'est vu qu'ils ne voulaient pas faire énormément d'efforts et nous non plus. Donc voilà, c'était deux équipes avec le match nul qui étaient contentes. On est en huitième et on est premier de notre groupe. Voilà, ça peut plaire ou non, mais c'est la réalité. Maintenant, profiter avec la famille et demain, on aura le temps.
Marc Libra, oui. Vous qui êtes ancien joueur, est-ce que vous comprenez que dans ce cas-là, ce match, on ne prenne pas de risque, on ne prend pas de risque de carton, on ne prend pas de risque de se blesser et finalement, on se contente d'un insipide match nul?
Après, ce qui est dommage, c'est que pour le Danemark, c'était un petit peu la même chose. C'est-à-dire que le nul a rangé un petit peu tout le monde.
Après, beaucoup même.
Oui, non, mais c'est vrai que dans le dernier quart d'heure, c'était à toi, à moi, on va pas sortir, on va vous laisser jouer, on va attendre. Mais après, on attend quand même autre chose, parce que, qu'on le veuille ou non, qu'on m'explique que la France a 75% de possession, que le Danemark s'est replié derrière, il y a quand même trois occasions en première période, c'est quand même le Danemark.
La France en aura une ou deux en fin de match.
Ben, la France aura Fekir qui frappe et une tête décroisée de Giroud. Voilà, c'est
bon, vous êtes ennuyé comme nous. Mais alors,
c'est le seul 0-0 de la compétition pour l'instant.
C'est le
faut
premier.
Le savoir, hein.
Effectivement, vous avez raison de le signaler. On en a parlé tout à l'heure. Et alors, comment voyez-vous quelle équipe de France finalement, quels bleus vont rencontrer les Argentins?
Ça sera sûrement celle qui a évolué face au Pérou.
Deuxième match.
Le deuxième match, parce qu'aujourd'hui, à part peut-être Nzonzi qui a prouvé qu'il pouvait être un joueur, mais malheureusement par rapport à Pogba, il ne prendra pas la place.
Il a fait que des passes vers l'arrière.
Oui, mais c'est ce qui est bien, c'est que au moins on a vu qu'il était solide, qu'il prend pas de risques. On l'a fait jouer parce qu'il y a des grands gabarits, donc on a voulu mettre en avant.
Si les deux ne prennent pas de risques, c'est mort.
Oui, non, mais on est d'accord. Mais là, il y a pas à prendre de risques puisqu'il y en avait pas. Donc dans ce registre-là, c'est bien. Donc quoi qu'il arrive, moi, c'est pour moi le coup de cœur, c'est lui sur l'ensemble du groupe. Après, Lemar n'a pas gagné de points.
Dembélé non plus.
N'a pas gagné. Dembélé, il va falloir qu'il comprenne ce garçon. Je ne sais pas comment ça se passe dans sa tête. C'est un joueur qui va quand même très vite. Il a fallu attendre la 40 timide pour voir une accélération sur le côté. Donc si les consignes, je pense que Deschamps doit lui dire, mon garçon, tu mords la ligne, tu accélères et tu centres. Parce qu'il y a un joueur qui s'appelle Giroud qui est très bon de la tête. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 80 minutes jusqu'à ce qu'il sorte, ou 75 minutes? Il rentre à l'intérieur, dans l'entonnoir avec Griezmann. Lemar, pareil. Qu'est-ce qu'il fait Lemar pour laisser passer Hernandez dans son dos? J'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc je pense que Dembélé, quoi qu'il arrive, ne pourra. Il faut plus qu'il joue en équipe de France pour l'instant. C'est pas possible. Mais vraiment.
Pas prêt.
Mais c'est pas prêt. Le maillot est trop lourd.
Je crois que vous êtes un peu dur.
Il ne comprend pas. Après, il faut. On perd plus de temps. On s'adapte plus.
Bah là, on est en huitième de finale.
Il faut plus les faire jouer. Ça s'arrête là.
Il faut être efficace.
Une fois, deux fois, troisième fois, tu restes sur le banc. J'étais déjà surpris parce que moi, à la mi-temps, je le sors et je mets Thauvin parce que autrement, ces joueurs-là, comme Rami Thauvin, c'est pas l'action de Marseille, attention, mais ils ne joueront pas et c'est dommage, c'est dommage.
Naïm, comment quel bleu vous voyez finalement dans ce huitième de finale face à l'Argentine? Qu'est-ce qu'il va choisir et lesquels vous ont plu finalement par rapport à ce qu'on a vu ces trois matchs?
Sur les trois matchs, dans les titulaires, Kanté et Lloris sont les seuls au niveau. Et puis parmi les remplaçants, Nabil Fekir, qui est le seul qui amène de la vitesse, de l'explosivité, de la créativité et qui fait des différences balle au pied, ce qui manque cruellement à cette équipe. Et ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'on n'a aucune vitesse. J'ai d'abord mis ça sur un problème physique, je me suis dit, ils ont peut-être pas digérer la préparation, c'est peut-être compliqué, machin. Puis finalement, en fait, non, c'est juste qu'on a personne dans cette équipe capable de changer de rythme, capable d'imposer un tempo, capable de donner de la vitesse quand il en faut, de ralentir le jeu. En fait, on n'a pas de meneur de jeu, tout simplement. Et pourtant, on a des joueurs qui sont capables de le faire. Griezmann, évidemment, Thomas Lemar, Sidi Bé. Je suis assez inquiet de ce que montre cette équipe, parce que c'est pas un problème physique, c'est un problème de football, c'est un problème de comment on joue au foot, de comment on utilise le ballon, de qu'est-ce qu'on en fait. Moi, si on me dit que on prend pas de risque, qu'on sort pas, qu'on met pas de vitesse parce qu'on a peur de se manger un contre le Pérou, l'Australie et le Danemark, mais rentrer à la maison, ça se termine ce week-end, les mecs.
À votre avis, dans le plan
C'est l'Argentine qui arrive, et derrière, ça sera soit le Portugal, soit l'Uruguay, et derrière, soit le Brésil ou l'Allemagne. Ça va être de plus en plus compliqué. Donc voilà, moi, je suis assez déçu, comme tout le monde.
Mais vous êtes optimiste ou pessimiste par rapport à l'enjeu face à l'Argentine?
Je suis pessimiste parce que l'Argentine n'a peut-être pas montré plus de choses dans le jeu, mais ce qui est sûr, c'est que dans l'état d'esprit, ils ont quand même montré des vertus aujourd'hui qu'on n'a pas encore vu en équipe de France. Alors, elle n'a peut-être pas été autant bousculée, mais je me demande, quand je regarde l'équipe de France, quel joueur dans cette équipe, mené 1-0 à un quart d'heure de la fin, sonne la révolte, motive les autres et traverse le terrain comme un mort de faim?
On l'a presque vu à la finale de l'Euro.
Ça dépend de l'adversité aussi, je pense.
Freddy.
La question que je voulais poser justement, c'est la dernière fois que vous avez vu l'équipe de France jouer très bien au football, c'est quand avec
la première demi-heure contre la Colombie.
La première demi-heure contre la Colombie.
Voilà.
Dans la continuité, ça a été quand? Avec quel entraîneur? L'équipe de France a-t-elle joué déjà un football flamboyant en 2006? Est-ce que cette équipe-là est mieux que celle de 2006 dans le premier tour? Ils avaient peut-être le meilleur joueur en 2006. Non, c'est pour dire justement que les premiers tours en général pour l'équipe de France, c'est souvent bric-à-brac. C'est vrai que Deschamps bricole depuis qu'il est là à peu près et qu'on a l'impression qu'il y a vraiment aucun style. Et ça, c'est vrai, il a aucun style partout où il est passé. Il a rarement eu de style. C'est un motivateur. Et en fonction de l'adversité, on a vu à chaque fois que l'équipe de France, depuis que Deschamps est là, à chaque fois qu'il y a eu une adversité où ils étaient souvent devant un but témoin ou une sorte de cul-de-sac, ils arrivaient toujours à montrer un peu de mental. C'était le cas quand ils ont joué le bar barrage face à l'Ukraine. C'était le cas quand ils ont été à l'Euro au fur et à mesure qu'ils montaient en compétition. C'est vrai que cette équipe-là, et les jeunes, on va pas mettre ça sous le coup de la jeunesse, mais c'est vrai qu'on a aussi peut-être sous-estimé cette équipe-là, mais moi j'ai l'impression que...
Sous-estimé ou surestimé?
Surestimé, pardon, excusez-moi. Ah oui. On est surestimé, mais autre chose, moi je suis convaincu qu'ils sont à peu près à 40-45% de leur potentiel, qui sont capables d'augmenter leur niveau de créativité et aussi surtout de réactivité.
D'abord,
face à
si t'es un habitué, si t'es un habitué de l'émission, tu sauras qu'on n'a jamais sur, en tout cas, moi, jamais surestimé l'équipe de France et qu'on a toujours
mis
la responsabilité
si,
en face.
Quand les gens mettent l'équipe de France parmi les favoris,
moi, je suis désolé. Non, on surestime pas des mecs qui sont titulaires dans les plus grands clubs du monde, qui jouent la Ligue des Champions, finale, demi-finale, quart de finale. On les surestime pas quand on dit qu'ils sont mauvais contre l'Australie et le Pérou. Et à un moment donné, aujourd'hui, le football est favori.
Mondial,
le football de club, le football de club est de meilleur niveau que le football de sélection. C'est une réalité depuis 10 ans. On a des mecs qui font des finales de Ligue des Champions, des demi-finales de Ligue des Champions, qui jouent dans les plus gros clubs, dans les plus gros championnats, et ils sont pas bons contre l'Australie, le Pérou. Dit ah oui mais là c'est normal. Bah non c'est pas normal justement.
Ils sont pas bons,
c'est qu'ils
ont pas de style.
Ils sont pas surestimés.
Ils ont pas de style. L'équipe de France ressemble.
C'est pas surestimé.
Marc Lebras pour terminer.
Non, mais je vais essayer de les mettre d'accord parce que il y a Tolisso déjà à la fin de la première rencontre qui a dit je m'attendais pas à ça. Pourtant Tolisso c'est quelqu'un qui joue des matchs très importants avec le Bayern.
Il a 5 sélections Tolisso.
Mais c'est pas ça, c'est juste l'équipe de France, la Coupe du Monde, l'ambiance qu'il peut y avoir, tout ce qui tourne autour, ça n'a rien à voir. Donc il faut pas se dire non mais quand toi tu dis oui mais ils sont habitués à des... non c'est la Coupe du Monde avec son pays c'est carrément autre chose. Et Dembélé pour moi aujourd'hui le maillot il est trop lourd et pour Tolisso aussi on l'a vu. Donc attention de pas se tromper. Après s'ils sont à 40 ou 45, j'aimerais te croire. À mon avis,
Marc,
ils sont à 85, 90.
Si je peux me permettre, tu parles de Tolisso et de Dembélé, tu parles des plus jeunes. Ouais, mais ouais. On peut regarder la phase de poule de Griezmann, on peut regarder la phase de poule de Pogba. Ces mecs-là, ils sont là depuis 2014.
Donc le maillot, c'est le plus gros problème.
Pour terminer, on va écouter l'avis d'un ancien international argentin et surtout attaquant à Bordeaux, joueur de River Plate aussi, club, cher au cœur d'Alejandro Valente. Il l'a rencontré tout à l'heure, justement, dans le stade de Saint-Pétersbourg. C'est Fernando Cavenaghi qui nous donne son avis sur ce huitième de finale.
Ça sera un super match parce que là, c'est un gros duel entre deux équipes très, très fortes. Bon, ça va être très difficile pour l'Argentine. La France, ils sont une très bonne équipe, de très bons joueurs. Mais bon, on a confiance en notre équipe.
Vous pensez que l'Argentine, qu'on avait vu quand même en difficulté en ce début de Coupe du Monde, a retrouvé son jeu, a retrouvé son esprit conquérant?
Oui, surtout l'état d'esprit, je crois que c'était magnifique aujourd'hui parce que là, on a fait un super match. Et surtout la première mi-temps, après, quand ils sont égalisés, c'était un peu compliqué parce que là... mais bon, je pense que ça va faire du bien pour la confiance de l'équipe. Et un huitième de finale, c'est toujours magnifique, et surtout contre la France.
Et Lionel Messi, on a trouvé un Lionel Messi très inspiré en première mi-temps. Il a marqué un but, il a tiré un coup franc sur le poteau. En deuxième mi-temps, il a eu beaucoup plus de mal à trouver le fil de son action.
Oui, c'est vrai, mais bon, et pour lui, pour l'équipe, pour la confiance, c'est vraiment super d'avoir marqué un but. Et lui, pour nous, c'est notre star, c'est le meilleur joueur. Et on attend beaucoup, beaucoup de lui. On espère que ce match va lui faire du bien.
Vous pensez que l'Argentine peut aller loin dans cette Coupe du Monde, au-delà de la France?
On ne sait jamais, c'est pas facile, surtout maintenant. Il y a des matchs vraiment très, très compliqués. Samedi prochain, on joue contre la France. Ça va être difficile, mais bon, on espère de pouvoir gagner.
Ce sera la troisième fois que ces deux équipes se rencontrent dans le cadre d'une Coupe du Monde. La première fois, c'était en 1930, donc je pense que personne n'a vu le match.
Et
qu'on ne le trouve pas sur YouTube. Ça, c'est évidemment une petite illustration signée Guillaume Ploquin, mais surtout, il y en a eu un, c'était en 1978.
78 et 86.
Coupe du Monde et 86. Trois fois, alors elles se sont, et à chaque fois la France.
On n'a jamais battu en Coupe du Monde.
Donc, voilà. Et puis, on nous transmet, David Finzel nous précise, vous avez tous vu sûrement Diego Maradona, on l'a vu.
En forme.
Oui. Et ben, justement, pendant le match, apparemment, il a fait un malaise vagal, et en fait, étaient prêts à vouloir l'emmener à l'hôpital. Vous avez vu quand même son embonpoint, 57 ans, il a apparemment, oui, et l'enjeu du match, apparemment, était pas là pour le rassurer.
Il a mis un peu de sucre dans le café aussi.
Je ne sais pas. en tout cas, il a eu un malaise vagal. Ils ont voulu l'évacuer vers l'hôpital. Il a résisté et il a voulu assister, eh bien, à la victoire des siens. Donc voilà pour ce qui est de Diego Armando Maradona. Allez, on va essayer. On fait un petit jeu, le petit jeu de Guillaume Ploquin. Allez, le petit jeu.
Votre pronostic ?
Et le vôtre ?
Je ne suis pas un devin, je suis un malin, c'est tout !
Nous sommes d'accord.
Alors sachez que je note, hein, quand il y en a qui donnent les bonnes réponses, je le signale. Marc les bras.
Un cadeau ?
Oui, à la fin, si on gagne la Coupe du Monde.
Dites-moi.
Lequel ?
France-Argentine.
Argentine.
Mais il me faut un score.
2-0.
2-0. Oh là là, deux buts de Maradona. Non, Maradona, ce sera compliqué. Mais de Messi. Freddy.
Après la résurrection, ça va être l'ascension de Messi. Donc 3-2 pour l'Argentine.
3-2. Bon. Et vous.
2-1 pour la France.
Naïm. Ah, ah,
pour enquiquiner le monde.
Ah bon. Pas
tu le penses vraiment alors. Est-ce que tu le penses vraiment?
Il ne le pense pas.
Voilà, il ne le pense pas. Vous l'avez tous vu. J'espère que vous l'avez tous vu.
Il a été sincère en plus, il l'a dit. Non, mais il s'assoit là où Rémi s'assoit. Aussi, voilà. Alors ça doit avoir un
côté. Ça joue. J'ai...
Allez, on va faire un petit tour pour ce qui est des matchs de demain dans ce curieux groupe F. Les champions du monde sortants reviennent au galop car les Allemands sont toujours là dans la compétition. Ils ont réussi eux aussi en in extremis à se sauver du guépier dans lequel ils s'étaient mis puisqu'ils faisaient un match nul face à la Suède et tout est venu des pieds de Toni Kroos. Résultat, l'Allemagne peut demain se qualifier, mais dans ce groupe on aura Allemagne, Corée du Sud et Mexique, Suède et tous les quatre peuvent encore rêver de huitième de finale. L'Allemagne en danger ou une formalité contre la Corée
du
Sud?
Une formalité, selon vous. Une formalité non, parce que je pense que c'est trop compliqué aujourd'hui une Coupe du Monde pour dire que c'est une formalité. Évidemment favoris parce qu'ils ont des bien meilleurs joueurs, parce qu'ils sont galvanisés par leur succès au raccro sur la Suède.
Eux aussi sont rentrés dans leur compétition.
Ouais, mais c'est un détonateur vraiment très puissant ce genre de victoire. Voilà, il y a un meilleur effectif, il y a une équipe de meilleure qualité, donc je les vois passer, mais non, pas une formalité.
Freddy.
Après, justement, l'Allemagne joue contre une équipe éliminée, malheureusement. Et c'est
non, elle n'est pas encore éliminée, justement.
Pas mathématiquement.
Mathématiquement, on va dire.
Si elle bat l'Allemagne avec beaucoup de buts d'écart et que la Suède bat le Mexique avec beaucoup de buts d'écart, elle peut passer.
Presque éliminée, ça va être compliqué, justement. Mm-hmm. On a vu cette Allemagne-là qui renaît de ses cendres. Le fait, justement, qu'ils aient souffert comme ça, où on avait l'impression, moi j'ai vu sur les deux premiers matchs, on avait l'impression que la chance les fuyait. Et maintenant qu'ils ont retrouvé, entre guillemets, cette chance-là à la dernière minute, ça va être archi compliqué à présent pour.
Vous les voyez passer les aussi?
Non, je les vois passer naturellement.
Marc Libras.
Oui, je les vois passer. Puis il y a toujours des éléments fédérateurs. Ce coup franc de Toni Kroos qui avait été décrit dans la presse lors du premier match où il avait été vraiment mis
en dessous.
Ils avaient fait énormément de mal. Et à l'arrivée, ça peut créer quelque chose. Donc
il a modifié son groupe en plus, Joachim Löw. Sous la pression, mais aussi face à la nécessité.
Avec les cadres aussi.
Il y a eu des choix forts avant la Coupe du Monde dans la liste, déjà ne pas prendre le Roi Sané, complètement hallucinant. Il a fait des choix forts contre la Suède en mettant Khedira et Ozil sur le banc.
Exact. Et Ozil, c'était normal.
Et même Ter Stegen. Moi, je te dis pas que c'est pas normal. Oui, c'est tout à fait normal. Voilà, en titularisant notamment Marco Reus, et il utilise beaucoup les jeunes, donc c'est très très bien. Moi, j'aime bien les sélectionneurs comme ça qui prennent des décisions.
Ah oui, c'est clair.
C'est radical. Tu peux rien lui reprocher. Il a une légitimité. Il gagne le match. Peut-être pas footballistiquement parce que devant, il gâche beaucoup trop pour espérer quoi que ce soit. Mais
Naïm, il y a quand même énormément d'occasions. C'est ça aussi.
Oui, il y a énormément d'occasions.
Comme le dit Freddy, ils ne vont pas avoir la malchance tout le temps parce que c'est entre le premier match et le second, poteau, il y a toujours un bras, il y a un genou,
ils ne vont pas avoir tout le temps la malchance. Non, mais ils ne vont pas avoir tout le temps la malchance. Mais tu as quand même des grandes différences par rapport aux générations précédentes. C'est que les générations précédentes se procurent aussi beaucoup d'occasions. Elles marquaient beaucoup de buts. Elles avaient des buteurs et Miroslav Klose, que tu n'as plus aujourd'hui. Rien que ce mec-là, tu n'as plus de vrai numéro 9 capable de te mettre.
Justement, Timo Werner, il galère dans son club, il n'arrive même pas à mettre un but. Et là, il est titulaire quasi indiscutable dans cette équipe.
Et oui, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de vrais neufs de métier en Allemagne.
Il y a la Gomez.
C'est un autre style de jeu.
C'est un style à la Giroud. Puis il a quand même eu sur les dernières saisons une carrière un peu en dents de scie. Il est parti un peu en Turquie, il est revenu se faire la cerise à Stuttgart, ça marche pas des masses non plus. Donc bon.
Mais il avait fait une bonne fin de saison, c'est pour ça que finalement, Joachim Löw a fini par l'intégrer.
C'est qu'il y a aussi une remise en cause de l'entraîneur. Lui-même, il a été énormément critiqué aussi. Et je pense qu'ils sont en train de remettre en cause, entre guillemets, sa longévité parce qu'il a prolongé jusqu'en 2021, je crois. Il n'est pas sûr de pouvoir prolonger d'ailleurs.
Oui,
et
peut-être
qu'il y a aussi une idée de fédérer autour de l'entraîneur qui va davantage.
Oui, sauf que cet entraîneur, il est là depuis 2006 et depuis 2006, aussi. L'Allemagne va jusqu'en demi-finale.
Il a remis sur selle cette équipe.
Donc je pense que quand même, ceux qui critiquent effectivement assez vertement et assez fortement au pays, parfois. Mais d'ailleurs, ils l'ont dit, les joueurs, hein, ça les avait quand même touchés et du coup, ça les a sublimés.
Ah, mais il est toujours, il est hyper soutenu par son groupe, Joachim Löw, mais de toute façon, ça a toujours été un mec qui a subi des critiques en Allemagne pour une bonne et simple raison, c'est qu'il n'a pas un passé de joueur terrible. Ouais. L'Allemagne est comme ça, c'est très, très conservatrice, elle regarde beaucoup le passé des joueurs. Alors, Klinsmann, qui a une meilleure carrière, n'a pas fait mieux que lui, et pourtant, il a une bonne image. Ouais. Donc voilà, Joachim Löw, malgré son titre de champion du monde, il subit toujours les critiques. Bon. C'est dommage.
Alors l'autre rencontre, eh bien, ça sera entre le Mexique et la Suède. Alors les Mexicains, pour l'instant, ils ont deux victoires.
Et je les adore. Et
alors Freddy Koula, vous les adorez, mais en même temps, ils pourraient être éliminés. C'est ça qui pourrait être un comble.
C'est le grand paradoxe de ce groupe-là, où demain, on pourrait retrouver, hypothétiquement, trois équipes à 6 points. Et ça va jouer certainement sur des critères qui sont un peu bizarres. Le goal average, ou sinon le nombre de cartons.
Confrontation...
la différence de but.
La confrontation directe.
Non, il n'y a pas de confrontation directe.
Si, c'est goal average, confrontation directe, fair play.
Ouais. Donc, le nombre de cartons.
De cartons jaune et rouge.
Ouais, il est, voilà. Et justement, voilà, ce serait
mais
dommage.
Les Mexicains face à la Suède, qu'est-ce que vous pensez? Que ça donne les Mexicains?
S'ils continuent à jouer, les Mexicains, comme ils ont joué depuis le début, je pense qu'ils vont poser énormément de problèmes à la Suède, qui est pourtant solide défensivement. Mais qu'est-ce que j'aimerais, moi, continuer à voir cette équipe mexicaine
qui est en position de génial pour le coup.
Bah oui.
Vous avez le Mexique qui joue à 200 à l'heure, toujours vers l'avant, qui ont 4 ou 5 joueurs, toujours dans la zone de vérité. Et puis la Suède très regroupée, très solide, qui arrive quand même à marquer des buts en contre, la preuve, ouais. Ils ont marqué contre l'Allemagne, ils ont réussi à battre la Corée, ils n'ont pas volé leurs points. Enfin, pour le coup, si on veut que la logique sportive soit respectée, le Mexique part quand même avec une vraie longueur d'avance.
Marc Libra, ce Mexique-Suède.
On a une équipe ultra défensive qui va sûrement mettre l'autobus et essayer de lancer des contres, les Suédois et les Mexicains qui, eux, vont se livrer, qui ne calculent rien, qui ne pensent à rien. Non, mais quand j'y pense à rien, c'est qu'on n'est pas dans le calcul. Oui, en même temps, la France, on calcule, on est à 30, 45. Non, mais là, on calcule pas, on envoie du joie, on joue et on se fait plaisir, football total. Les supporters vont les suivre aussi parce qu'il y a une grosse ambiance autour du Mexique et tout. Donc, j'espère qu'ils vont passer, vraiment.
J'ai juste une crainte pour le Mexique, c'est qu'ils accusent de coups physiquement parce qu'ils ont énormément donné sur les deux premiers matchs.
Ça veut dire que
physiquement, ils peuvent accuser le coup parce que façon ils ont joué, c'est avec un pressing intense, avec quasiment 70 minutes intenses. Ça pourrait pêcher sur le troisième match peut-être.
Mais c'est une équipe qui a son destin entre ses mains et annule la qualification de toute façon. Donc elle peut se permettre à la rigueur même de lever le pied contre la Suède.
Mais les Allemands, c'est ce qu'a dit aussi l'entraîneur justement Joachim Löw. Il a dit il faut continuer à rester maître de notre destin. Et évidemment, maître de son destin, c'est gagner contre la Corée du Sud.
Les Allemands, par contre, sont pas dans la même situation. Ils doivent gagner quoi qu'il arrive.
Ouais, ils doivent l'emporter pour réussir à se hisser en huitième de finale. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup,
merci Annie,
messieurs.
Merci à tous.
Alors, je rappelle le huitième de finale qui se disputera samedi après-midi entre la France et l'Argentine, et celui qui se disputera dimanche soir, ça sera entre la Croatie et le Danemark. Merci à tous de nous avoir suivis sur le Facebook Live. Vous pouvez d'ailleurs nous revoir et vous pouvez partager cette émission. Merci donc à toute l'équipe, à Cyril Etienne, Laure Tamperville et Jérémy Docteur. Et puis évidemment, merci à David Finzel qui fidèlement était là avec Guillaume Ploquin pour vous accompagner jusqu'à cette heure tardive. Merci aussi du côté de Moscou à nos camarades Médard Chablaoui et Denis Chastel qui assurent chaque jour les liaisons avec Paris. Merci à tous, on se retrouve demain pour continuer à parler football et ce sera à 16h10 en temps universel. Merci.